Bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là, mais on vous propose de démarrer hein, pour cette seconde partie. D'abord, en introduction, remercier les intervenants d'être venus jusqu'à nous pour cette seconde partie. Un grand merci hein, au nom de l'AFEF. Très vite, pour entrer dans le vif du sujet, nous sommes partis du constat que le métier d'enseignant évolue constamment par rapport au savoir, aux mentalités. Quelles sont les conditions du développement professionnel depuis l'entrée dans le métier jusqu'à la formation continue tout au long de la carrière? Voici la problématique de cet après-midi. Alors, nous l'avons décomposé en trois entrées, hein, vous avez le détail dans le programme, trois entrées, trois pistes pour travailler cette problématique. D'une part, du côté de l'institution, avec comme intervenants Brigitte Courbet-Manet et Baptiste Quéron. Formation initiale et continue avec Isabelle Henry et Karine Risselin. Et donc, du côté du terrain, hein, enjeu du travail collaboratif des enseignants, avec Daniel Alexandre qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà, alors très vite pour cette première partie, ce que nous vous proposons, c'est un temps avec les deux intervenants chaque fois pour la première entrée, donc cette fois-ci du côté de l'institution. Deux questions par rapport à ça, et puis nous laisserons les intervenants, peut-être Brigitte Courbet-Manet en premier et Baptiste Quéron en second, avec un temps de questionnement de votre part, hein, du côté de la salle, d'environ 10 minutes, puisque nous sommes très contraints par le temps. Le questionnement pour cette première partie, c'est en effet comment le changement à la fois de posture, de métier, est-il aujourd'hui accompagné? Quels sont les espaces et les modalités d'accompagnement des enseignants? Voici quelques questions que nous proposons d'une part à Brigitte Courbet-Manet, qui est donc inspectrice d'académie, directrice territoriale de Réseau Canopée Grand Est, Réseau Canopée qui est l'opérateur de l'éducation nationale, et la direction territoriale de Canopée Grand Est porte le pôle national de développement professionnel des enseignants. Et puis Baptiste Quéron, qui est professeur des écoles à l'origine, qui a un parcours de 10 ans d'enseignement dans l'éducation prioritaire, dont 6 ans au CP, qui a été directeur d'école, référent numérique dans une circonscription, et qui est coordonnateur en REP+, dans le réseau Costa Gavras. Il pourra nous en dire un mot. Voilà, donc je propose à Brigitte Courbet-Manet de présenter cette première partie sur le développement professionnel des enseignants à travers le réseau Canopée.
Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour votre invitation aussi. Réseau Canopée, son ambition, c'est d'accompagner en tant qu'opérateur de l'éducation nationale, c'est d'accompagner donc les grands enjeux du système. Et depuis le décret de 2014, Canopée est explicitement reconnu comme un des opérateurs de formation, et c'est le premier de ses axes stratégiques tel qu'il l'a décrit avec la tutelle dans son contrat d'objectif. Donc, accompagnement du développement professionnel, c'est inscrit, c'est mis en pratique aujourd'hui. Notre spécificité, c'est d'être à la fois éditeur public, hein, éditeur, producteur et diffuseur de ressources, de proposer des formations en présentiel, en distance, à distance. On est à l'origine de magistère, on a produit un certain nombre de MOOC. On accompagne aussi par des médiations dans les ateliers Canopée qui ont été complètement transformés, des enseignants on accompagne des enseignants autour de problématiques communes. Et puis, on propose d'autres dispositifs que je vous présenterai tout de suite après la présentation du pôle. Depuis la spécificité, et puis c'est parce que je suis en train d'imaginer le temps que j'ai, il me reste, donc il faut que je me concentre et que je zappe certaines choses. Là, la spécificité de l'opérateur, c'est vraiment ce croisement entre production de ressources, formation, projet de classe innovant, et on le verra, c'est aussi accompagné par des projets de classe innovants, c'est des leviers de développement professionnel aussi pour les enseignants, et puis la médiation dans des démarches de co-design sur lesquelles on va revenir. Donc, le pôle de développement professionnel, depuis 3 ans, Réseau Canopé, avec ce décret, s'est doté d'un pôle de réflexion sur ce qu'est le développement professionnel, et c'est ce que je me propose de partager avec vous aujourd'hui. Et c'est en tant que responsable de ce pôle que je m'adresse à vous. Et il y a un certain nombre d'acteurs au sein de ce pôle, aux compétences, aux métiers très diversifiés. Et je le copilote avec un chercheur de l'ESPE de Lorraine, puisque c'est là que je suis basée, à Nancy, dont la mission est d'éclairer justement par la recherche les problématiques professionnelles que nous abordons au sein de ce pôle. Alors le rôle de ce pôle, c'est de concevoir des dispositifs d'accompagnement de pratiques enseignantes, donc en atelier, mais de contribuer, d'être assez innovant pour contribuer aux côtés des autres opérateurs de formation. On travaille étroitement avec les ESPE, avec les missions formation continue aussi, avec les CARDI, à une dynamique de développement professionnel et contribuer aussi à changer, ou à tenter de le faire, à changer le modèle de formation actuel, encore assez prescriptif, on y reviendra. On teste ces dispositifs avec le grand test est très interpellé par nos multiples dispositifs. On les teste, on prototype, on les teste, et puis ensuite on voit si on les sème à l'ensemble du réseau, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, dont le retour des enseignants. On est vraiment très 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 attentif à l'expression et à l'adaptation vraiment du dispositif qu'on met en place avec les besoins des enseignants. Qu'est-ce que c'est ? Pour qu'on partage la même conception, la même approche de ce concept, dans la littérature, on le voit vraiment abordé de différentes façons. Les travaux de recherche le prennent pas toujours sous le même angle. J'ai choisi ici la définition de deux chercheuses de l'université de Sherbrooke de Montréal. Le Québec le Canada et le Québec en particulier sont très en avance sur ce concept de développement professionnel. Et donc, je vous ai proposer là la définition que donnent ces deux chercheuses, Uwe Maria et Muka Murera, qui disent que c'est un processus, le développement professionnel, c'est un processus, un parcours au long cours de transformation par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leurs pratiques, à maîtriser leur travail, à se sentir à l'aise dans leur classe. Et souvent, dans la littérature, on parle de formation tout au long de la vie. Et disons que, bien sûr, le développement professionnel s'inscrit dans un parcours au long cours, mais il ne faut pas confondre, et parfois on le voit trop souvent, le développement professionnel et la formation, par exemple. C'est-à-dire que entre le développement professionnel en soi et les moyens par lesquels il se réalise, la formation est un moyen pour permettre le développement professionnel, ou tout au moins devrait-elle l'être, cette formation au service du développement professionnel. Je ne reviens pas là-dessus. Vous avez dû suivre très récemment les Assises nationales de la formation. Dans ces assises, les enquêtes étaient redoutables sur le bilan aujourd'hui de la formation. Elle n'est pas, on peut le dire comme ça, au service du développement professionnel. Elle ne prend pas assez en compte les besoins. Vous voyez quelques chiffres là. Elle est jugée insuffisante par rapport aux besoins. c'est en quantité, en qualité. Le public n'est pas suffisamment consulté en amont pour ces fameux plans de formation. Et ils souhaitent, 80% des enseignants souhaiteraient pouvoir exprimer leurs besoins avant que les plans de formation soient construits. Donc, on reviendra sur des dispositifs un petit peu plus innovants. Pour aller vite, que dire aujourd'hui ? Je reviendrai peut-être là-dessus. Je vais juste revenir sur cette diapositive-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment, me semble-t-il, pris en compte, et je voudrais juste faire un petit focus parce que ça fait écho à ce que j'ai entendu ce matin. C'est peut-être encore plus compliqué aujourd'hui d'améliorer sa pratique et d'être à l'aise dans son métier, et je fais écho à ce que disait Dominique Bucheton, dans un contexte sociétal sans doute plus difficile, avec aussi de nouveaux savoirs. Donc dans le cadre d'un métier qui n'est en rien technique, dans le cadre d'un métier complexe, je reprends l'expression de Pernoud. Et c'est quoi agir au cœur d'une activité complexe ? C'est vraiment ne pas se contenter d'appliquer des scénarios que d'autres ont produits et ont conçus. C'est être capable de prendre des décisions, de résoudre des problèmes complexes par ses propres moyens et en même temps en situation. Donc c'est vrai que c'est un métier passionnant, mais c'est aussi un métier très difficile parce qu'on est tout le temps en train d'analyser en action ce que l'on doit faire. Et c'est donc être capable, davantage que dans un métier d'exécution, d'autonomie, de responsabilité, d'inventivité, de créativité, pour pouvoir agir en professionnel compétent. Alors, on peut interroger effectivement la place laissée à cette dimension dans nos dispositifs de formation aujourd'hui. Un métier complexe, qui s'inscrit dans un contexte sociétal compliqué, en plein changement, avec des finalités éducatives en évolution permanente, avec des découvertes dans des domaines scientifiques, on l'a dit ce matin, notamment les neurosciences, un contexte dans lequel les compétences et savoirs nécessaires à l'activité d'enseignant ne cessent d'évoluer. Et il est probable qu'il faille se doter aujourd'hui de nouvelles compétences en tant qu'enseignant, si l'on veut construire les fameuses compétences du 21e siècle de nos élèves. Et là, je vous fais écho au référentiel que vous devez connaître sur ils se rejoignent, ceux de l'UNESCO, de l'OCDE ou bien de l'Union européenne. Tous se rejoignent sur les plus fondamentales compétences nécessaires et attendues de nos élèves, c'est-à-dire collaboration, créativité, pensée critique, communication, résolution de problèmes, évidemment littératie numérique et puis toutes les habiletés sociales, culturelles et citoyennes. Donc, c'est ces compétences-là que l'école a à construire aujourd'hui. Et comment sommes-nous formés pour pouvoir accompagner la construction de ces nouvelles compétences ? Est-ce qu'on peut construire des compétences de collaboration si on prépare toujours sa classe seule et si on ne travaille jamais avec d'autres ? Est-ce qu'on peut éveiller la créativité si on ne vit pas soi-même des moments d'inventivité ? Donc c'était génial la poésie juste avant parce que c'est vraiment ça. Vous nous avez montré que effectivement les enseignants étaient inventifs, créatifs et que avec l'Oulipo, avec tous ces jeux poétiques, et qu'il y avait beaucoup de choses à développer derrière cela. Or, est-ce que c'est pratique courante dans nos classes, dans nos disciplines ? Est-ce qu'en mathématiques, comment on fait en cours de maths en première ? Comme quand j'étais en première. Donc, ça, un certain temps déjà. Voilà, donc, concluons, peut-on inviter les élèves à entrer dans une succession de projets d'apprentissage pour aller au bout du bout si soi-même on ne s'inscrit pas dans une démarche de développement professionnel ? On peut aller jusqu'au bout de cette question. Alors on imagine bien qu'on ne va pas changer de modèle aussi aisément et que l'entrée dans une dynamique de développement professionnel, ça ne se décrète pas. mais plutôt, ça va se construire grâce à de nouvelles modalités d'accompagnement. Et c'est là que je voudrais en venir, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas, continuer à former les enseignants avec un formateur qui sait et des enseignants, un formateur expert, un formateur qui sait et en face des formés qui sont considérés comme des non-sachants. Il va falloir réhabiliter l'expertise de terrain, l'expertise de la pratique, parce que c'est une véritable expertise, et faire croiser l'expertise du formateur qui est différente et l'expertise du praticien. Voilà, donc c'est pourquoi on parle de nouvelles modalités d'accompagnement, et donc je voudrais que vous regardiez cette autre définition du développement professionnel qui est proposée par deux chercheurs, psychologues du travail, spécialistes de l'analyse du travail de l'Université catholique de Louvain en Belgique, qui disent, eux, c'est bien sûr un processus de modification, donc les deux chercheuses disaient de changement, de transformation, on est bien là-dessus, selon lequel, nous disent-ils, on a avancé sémantiquement par rapport à la première, selon lequel, pour s'engager progressivement, l'enseignant sort de son isolement pour s'engager dans une démarche collaborative qui doit être à la fois collégiale, autonome et qui lui permet d'augmenter sa confiance en soi. Et là, c'est extraordinaire parce que tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire que si l'engagement est premier pour... C'est on entre dans une dynamique soi, avec sa chair, son cœur, son corps, sa tête, sa pratique. On entre dans une. On décide de se mettre en route. Et si vous êtes là aujourd'hui, un samedi, c'est bien que vous êtes dans une dynamique de développement professionnel. Donc, l'engagement est premier. Mais on n'entre pas tout seul. Dans une dynamique. La coopération, et c'est ce qui est dit là, elle est un levier essentiel. C'est ensemble, en partageant nos savoirs, que nous grandirons professionnellement. Et les leviers qui favorisent la dynamique de développement, les voilà de manière explicite. Ben oui, c'est l'engagement, mais c'est l'échange, le partage, la coopération avec d'autres, pas forcément avec d'autres, alors avec des pairs, avec des enseignants de son établissement, de son équipe, mais aussi d'autres acteurs qui sont en relation d'ailleurs avec les métiers de l'humain, par exemple des formations enseignants et soignants sont extrêmement intéressantes, mais trop peu fréquentes, parce qu'on se pose les bonnes questions justement du cœur, du corps et de tout ce qui va avec dans les métiers de l'humain et les métiers de l'éducation. Et c'est bien dans une démarche de co-construction, on construit ensemble, que naît le fameux sentiment d'expertise. On a trop dit que les praticiens devaient entendre la bonne parole, écouter, etc., et dupliquer, reproduire ce qu'on leur disait, qui était bien pour eux. Hein, dis-moi ce dont tu as besoin, je te dirai ce qu'il te faut, voilà. Ou comment t'en passer, c'est l'autre, effectivement. Donc, le sentiment d'expertise, il est important. Eh bien, le sentiment d'expertise, moi, j'ai été cadre pendant... Enfin, je n'inspecte plus, mais j'ai inspecté pendant des... 20 ans, plus de 20 ans, et c'est vrai que ce qui me frappait dans les classes, c'était vraiment, ma première inspection, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est le sentiment d'insécurité, c'est le manque de confiance en soi, c'est la fragilité, alors que, je veux dire, les enseignants, faisaient 100 inspections par an, les enseignants qui... n'étaient pas voilà là où on les attendait, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc en fait, il y a aucune raison, mais le manque de confiance en soi, c'est quelque chose d'important, enfin, et qu'il faut vraiment qu'on arrive à casser aussi avec les nouvelles modalités d'accompagnement, parce que le sentiment d'expertise, il fait grandir professionnellement. C'est un moteur. C'est comme l'élève qui est toujours en échec. Comment vous pouvez lui dire, vas-y. S'il est persuadé qu'il n'est pas bon, qu'il est nul en tout et qu'il n'y arrivera jamais à l'école, on a beau le booster, ça ne marche pas. Donc, effectivement, ce sentiment-là, il est important. L'expérience, l'activité réflexive, évidemment, je pense que vous en parlerez, le va-et-vient entre... Je fais, je réfléchis sur ce que je fais et je refais et je régule et je reviens. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais c'est encore mieux quand on le fait à plusieurs et quand on s'en parle. Et vous l'avez dit ce matin avec les co-interventions. Quelle est la richesse de la co-intervention ? La richesse de la co-intervention, c'est qu'effectivement, on est obligé de se parler de ce qu'on fait, de ce qu'on met en œuvre, de l'activité d'enseignement qu'on mobilise. Donc ça, c'est important. On le dit, sa pratique, on la conscientise, on la verbalise, et puis on la partage, et puis on la réinterroge à l'aune de ce que l'autre peut faire. Voilà. Et puis, la posture de médiation, j'y reviendrai, c'est pour casser un peu ce modèle. C'est-à-dire que pour être accompagné, il faut une médiation. Toutes les recherches disent qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut un médiateur. Et un médiateur, j'aime bien ce terme, on s'est accaparé de ce terme à Canopée, mais j'aime beaucoup ce terme parce que c'est vraiment, on fait le lien. Je t'écoute, je t'entends, je suis dans le métier aussi, où je connais les problématiques professionnelles, donc ce que tu me dis, je comprends, je sais le traduire, je sais te mettre en lien avec la recherche, avec les ressources, avec d'autres pairs, etc. Donc la médiation, elle est importante. La formation est trop centrée sur le conseil, et j'aime bien l'expression de Michel Tozzi qui dit que le conseil tue l'analyse, et c'est vrai que quelquefois, c'est quand même ça. Que vous dire ? Je suis dans les délais ? Non, j'ai dépassé. Si, c'est bon, c'est bon. Je voulais... Ah oui, je mange, j'entends. Alors, je vais... Ah ben, alors, il ne faut pas me dire ça, parce que... Ou alors, il ne faut pas... Non, je vais simplement vous montrer, et ça sera j'ai deux diapos de conclusion. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est important, on a mis du temps à travailler sur les axes stratégiques. Le pôle a voulu définir, après son temps de travail, qui ne finit jamais, les trois axes d'action pour contribuer justement au changement du modèle de formation et favoriser cette dynamique de professionnel. Le premier axe, c'est celui du développement personnel des enseignants. Alors, si on reconnaît, je m'appuie sur des jours spécialistes de l'analyse de travail, que le travail, c'est pas juste un salaire qui tombe, c'est vraiment un mode d'engagement de la personnalité pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes. Si on estime que le sujet donc est central dans la démarche de formation à des métiers de l'humain, parce que c'est un métier singulier quand même, ce métier d'enseignant. C'est un des métiers de l'humain, c'est pour ça que je parlais des soignants tout à l'heure. C'est quand même un métier singulier, hein. Ce n'est pas mettre en paquet des bonbons. Et donc, si on pense que le sujet est central, l'institution doit reconnaître les formations dans les branches du développement personnel et ne pas les penser comme fantaisistes et admettre que le soi personnel et le soi professionnel se construisent de concert et qu'il faut accompagner et le développement personnel et le développement professionnel. C'est un petit peu long là-dessus, mais ça me semble extrêmement important. À Canopée, on a développé une offre assez conséquente dans le champ du développement personnel à visée professionnelle et on a des retours, on a des vidéos, je vous inviterai à aller sur le site, des témoignages d'enseignants qui s'expriment sur l'estime d'eux-mêmes, la gestion du stress, sur l'intelligence émotionnelle, etc. Un deuxième axe très rapide, c'est la mise en œuvre du co-design en éducation. Alors, c'est peut-être un grand mot co-design, mais qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on base La formation, on propose des mises en situation basées sur la stimulation de la créativité et la mobilisation de l'intelligence collective. Ça vient du design, hein, de toute façon. Pour fabriquer un objet, on met toutes les compétences ensemble, les acteurs ensemble, et puis on y va, on essaye, on brasse, on invente tout, on laisse la parole libérée, ce qu'on ne fait pas du tout en formation actuellement, c'est-à-dire qu'on peut créer, partager, inventer, on prototype, on essaye, on revient, et jusqu'au produit fini, entre guillemets. Donc cette démarche, nous, on l'a éprouvée dans la refondation du réseau. Quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens CDDP, ces centres de documentation pédagogique, ça veut dire qu'on a changé non seulement les espaces, non seulement les outils, mais aussi les services, mais aussi les métiers. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout la même chose. Là aussi, il faut qu'on s'interroge aussi sur les transformations d'école. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de transformation d'école, transformation d'espace. Si on s'amuse à mettre des meubles à roulettes, si on s'amuse à mettre du numérique partout, et si on ne réfléchit pas en parallèle aux pratiques des enseignants, aux pratiques régulières, aux pratiques singulières, celles qu'on a dans un établissement, dans un contexte donné, et qu'on ne met pas la marche trop haut, donc zone proximale de développement, hein, on connaît ça par cœur en tant qu'enseignant avec les élèves, si on ne pense pas en même temps l'évolution des pratiques, on pourra bouger les meubles, on pourra remettre des tablettes partout, ça ne changera rien. Donc il faut vraiment que les deux se fassent ensemble, et ça, c'est vraiment important. Et puis, je fais le lien tout de suite avec le troisième axe que j'appelle le développement scolaire. On travaille beaucoup, nous, avec les Luxembourgeois dans le Grand Est et avec nos pays transfrontaliers et l'Allemagne. Et les Luxembourgeois, ils parlent de développement scolaire et ça veut dire exactement aussi ce que je dis, c'est-à-dire on transforme nos établissements pour qu'ils répondent plus aux besoins de nos élèves aussi, avec des espaces qui sont entre la classe et la salle d'études, d'autres espaces qu'on investit avec ces outils numériques. Et en même temps, on pense le développement professionnel de tous les acteurs, de tous les acteurs. Et ça m'amène à un des dispositifs qui sera ma conclusion. On est en train de d'essaimer, alors un prototype qu'on a essayé dans le Grand Est et qui est en train de s'essaimer au niveau national, ce qu'on appelle les ateliers canopés en résidence. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer pour parler de différenciation pédagogique ou parler de poésie ou de parler de créativité dans les ateliers, mais l'atelier, c'est-à-dire toute l'équipe, peut se déplacer pendant de 2 à 5 jours. On a tous les formats, donc on dit une moyenne de 3 jours. Dans l'établissement co-scolaire, ça veut dire qu'on se déplace, bien sûr, tous les médiateurs. Parfois, on amène du mobilier, parfois de l'équipement numérique, mais surtout des dispositifs de formation pour les enseignants et des activités, ateliers créatifs pour les élèves. Tout le monde, alors après, suivant la taille de l'établissement, on prend tous les niveaux de classe, ou bien toutes les sixièmes, ou bien sixièmes et troisièmes, enfin bref, on s'organise. Alors c'est un gros travail, hein, mais de co-construction en amont entre l'équipe de l'atelier canopé, hein, c'est pas un truc clé en main, hein. On vient pas en disant voilà les ateliers, voilà les formations, choisissez. On construit ensemble en fonction du projet d'établissement, en fonction des besoins exprimés des enseignants, avec le chef d'établissement, avec le conseil de pédagogique, on construit la semaine de résidence où on se forme ou à partir d'un diagnostic étayé. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site, vous tapez pôle de développement professionnel et sur le site, vous verrez les vidéos des définitions conceptuelles. Excusez-moi.
Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation de ces nombreux dispositifs très variés. Et la parole maintenant à Baptiste pour son intervention.
Merci. C'est bon ? Ouais, on monte. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Quand Dominique Bucheton m'a demandé d'intervenir pour cette journée, je me suis demandé pourquoi. Ta fonction de, elle m'a répondu que ta fonction de coordonnateur et plus est peu connue. Ton travail de médiation, d'accompagnement, de négociation est à valoriser. Et c'est ce qui permet à un réseau d'apporter une cohérence, un engagement de la part des collègues et de la part de l'institution dans son ensemble. Alors j'ai accepté. Et voici en quelques minutes mon rôle et mes missions au sein du réseau d'éducation prioritaire.
Je peux faire pareil ?
Oui. Sur le... Ah, je ne sais pas. C'est sur ce bouton-là. Alors, tout d'abord, voici l'environnement dans lequel je travaille. Ma mission à mi-temps est de coordonner les actions de la maternelle jusqu'au collège, sous le pilotage de l'IUN de circonscription, de l'IAIPR référent et de la principale du collège. J'ai la chance de bénéficier de la part de ces pilotes d'un cadre clair et de toute leur confiance pour travailler sur mes missions, tout en leur faisant des allers-retours réguliers. Je vois cette mission comme un facilitateur d'interaction, et quand on regarde toutes les flèches, on se rend bien compte que c'est un vrai travail de médiation entre tous ces interlocuteurs, qu'ils soient éducation nationale ou hors de l'éducation nationale, des interlocuteurs qui n'ont pas tous les mêmes moyens, les mêmes formations et les mêmes objectifs, à part celui de faire grandir un enfant et de le faire devenir un citoyen de demain. Pour cela, je dispose d'un cadre, le projet de réseau. C'est un document qui part d'un diagnostic partagé qui a été travaillé avec tous les enseignants et toutes les écoles et qui part aussi des orientations du référentiel de l'éducation prioritaire dont voici les différents axes et qui permet à chacun de ne pas oublier les orientations principales du réseau. Je m'y réfère dans toutes mes communications, que ce soit avec l'institution ou avec les partenaires. Il comprend trois grands axes. Le développement du parcours d'éducation artistique et culturelle, dont on parlait un petit peu ce matin, un axe parentalité et un axe citoyenneté. Et il se met en place via des projets de classe, des projets d'école ou des actions de formation. Alors lorsque je me rends d'établissement en établissement, je rencontre des enseignants qui sont vraiment passionnés, qui sont engagés dans leur classe, mais par contre qui sont parfois démotivés ou qui sont accaparés par des situations d'élèves, par des situations de famille ou par des demandes ministérielles. Il est nécessaire de prendre en compte ce ressenti, d'écouter ce réel et de comprendre ces situations avant d'aller plus loin, avant de réussir à décentrer l'individu et pour l'amener vers un développement personnel et professionnel. Ce qui passe inexorablement, comme le disait ma collègue tout à l'heure, par le fait de rassurer l'enseignant sur sa pratique et de le mettre en confiance. Et ceci sans jugement. En effet, un enseignant peut mettre en place des pratiques innovantes et pertinentes dans sa classe, mais il est souvent difficile pour lui de partager ses pratiques et de s'inscrire dans un collectif de travail. En REP+, nous avons un moyen exceptionnel pour mettre en œuvre ce collectif de travail. Nous avons 54 heures d'accueil, d'accompagnement, de soutien et de formation. J'ai repris l'intitulé dans l'ensemble du référentiel de l'éducation prioritaire, car toutes ces dimensions sont essentielles. Il ne s'agit pas simplement de les former, mais surtout d'accueillir les enseignants, de les accompagner et de les soutenir. Les enseignants ne souhaitent plus exécuter. Ils ont envie et ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de chercher, ils ont besoin de construire pour donner du sens, à des nouvelles pratiques pour la réussite des élèves. Ils sont souvent en train de regarder le rapport entre la perte et le gain de temps et de compétences. Et tout cela, ça prend du temps. En travaillant sur les gestes professionnels et les postures des enseignants de Dominique Bucheton et les postures des élèves, je me suis intéressé aussi aux gestes professionnels et aux postures des formateurs. Et je me suis rendu compte que les formateurs reproduisent parfois les mêmes travers, des postures de contrôle avec les enseignants, de surétayage, d'enseignement, on va transmettre un savoir, mais peu dans l'accompagnement et presque jamais dans le lâcher-prise. Voici ici présentées des idées forces qui prennent en compte tous ces postulats, le fait de laisser le temps aux enseignants, de prendre le temps avec eux, d'être en lâcher-prise avec eux, de les responsabiliser et de les accompagner, accompagner des individus et accompagner aussi un collectif. Alors, nous avons pu mettre en place avec Dominique Bucheton un exemple que je vous présente, un exemple d'accompagnement avec une vingtaine d'enseignants de CM1, CM2 et 6e dans le cadre du cycle 3 depuis juin 2018. Alors, en amont un peu plus de ma part et puis avec Dominique Bucheton, mais pour eux depuis juin 2018. Sur 3 ans, les enseignants de cycle 3 se réunissent deux jours par an, en 3 fois, pour réfléchir sur leurs gestes professionnels avec l'accompagnement de Dominique Bucheton une fois par an en présentiel et le reste du temps en distanciel par mon intermédiaire. Les temps de présentiel permettent aux enseignants de se retrouver, de réfléchir ensemble sur leur posture et de construire collectivement des gestes professionnels et des outils. Dans ces temps de présentiel, j'attache une grande importance à l'accueil de chacun par leur prénom, par un petit café, une petite phrase personnelle, une observation, une écoute du « comment ça va ?» et puis aussi une petite dose d'humour. Ça fait pas de mal. Et entre ces présentiels, les enseignants doivent essayer des pratiques et je les accompagne sur différents projets. Lors de mes venues dans les écoles, j'en profite pour leur rappeler les échéances à venir et je me rends dans certaines classes avec leur accord pour filmer des séances. Un entretien filmé lui aussi suit la séance afin de les valoriser sur leurs pratiques et de les questionner. De les questionner sur leurs pratiques et aussi sur les postures des élèves pendant la séance. Les films sont ensuite montés et montrés lors du présentiel suivant pour servir de support à la formation. Voici quelques principes. Mon rôle est d'expliciter et de tenir ces principes, de les faire partager aux formateurs et aux pilotes. Nous avons pu avoir une demi-journée avec Dominique Bucheton d'échange avec les formateurs et les pilotes sur le fait de former des enseignants et de les accompagner. Mon rôle est aussi d'enrôler et d'étayer individuellement les enseignants, d'apporter une cohérence et une cohésion à cet accompagnement. Et ce n'est pas toujours simple. Entre les besoins et les attentes des enseignants et ceux des pilotes, il peut y avoir des divergences. Entre les caractères de certains enseignants et de certains formateurs, ça peut être compliqué. Les appétences des enseignants au changement sont souvent inégales, mais il faut oser. Oser est souvent difficile pour eux, mais ils se demandent beaucoup pourquoi modifier ma pratique, pourquoi se remettre en cause, quel gain pour eux, ça c'est une vraie question. Et la phrase que j'emploie le plus souvent, c'est essayer et faire petit à petit. Alors, ça fait un an et demi, puisqu'il y avait un peu de préparation. Petit à petit, des micro-changements s'opèrent. Il faut vraiment leur laisser le temps, ne pas lâcher en accompagnant chacun. Mais c'est surtout un collectif de travail qui s'est créé. Et un collectif de travail qui s'est créé en toute confiance. Ça se voit particulièrement lorsqu'on montre des extraits de séances où il y a vraiment du respect entre eux. Par le film, l'enseignant se voit ou il voit les autres, il prend conscience de sa posture ou il fait des parallèles avec sa posture et ils en ont besoin pour se développer, pour faire une pause et pour prendre du recul. Je vous propose un retour d'une enseignante sur la séance et sur l'entretien qu'on a pu filmer, si ça marche. Alors, attendez. Allez.
Le fait d'être filmé et là, cet entretien, qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que ça t'apporte des choses ?
Alors, j'attends. Je pense que ce serait intéressant de le voir parce que je ne me suis jamais vue en classe, donc c'est vrai que. Notamment comme on parlait du niveau sonore, Mes déplacements dans la classe aussi, je ne me rends pas bien compte si je me déplace beaucoup ou pas, si je parle fort ou pas, si c'est bruyant. Donc voilà, mais par contre, voilà, le fait d'être filmé dans la classe, ça ne change pas ma pratique, en fait. Enfin, une fois que je suis avec mes élèves, qu'il y ait quelqu'un ou pas, une caméra ou pas, voilà. Je suis plus dans, voilà, dans ce que je veux leur faire faire. En fait.
D'accord. Et le temps d'entretien ?
Je trouve ça intéressant parce que du coup, on a rarement l'occasion au quotidien de revenir sur une séance qu'on vient de mener. Surtout que là, on est à chaud. Voilà, sur les postures, sur les objectifs, sur comment j'ai vécu la séance. Donc, je trouve ça intéressant en fait de se poser des questions là parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses où je ne suis pas sûre d'avoir les réponses. Voilà, donc peut-être que la vidéo.
Merci.
Merci.
Voilà, ces fils peuvent donner lieu à valorisation sur le site de la DSDEN ou sur la lettre d'information de la DSDEN. D'autre part, on est en train d'essayer, hein, nous aussi, mais je crois de plus en plus à l'auto-positionnement des enseignants pour leur permettre une prise de recul sur leurs gestes professionnels. En effet, certains ne souhaitent pas être filmés ou visités. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'essayent pas. Et par une grille d'observation, par des échelles descriptives, les enseignants peuvent réfléchir sur ce qu'ils mettent en place dans leur classe, sur des projets ou des pratiques, au regard de différents critères. C'est eux qui se positionnent par rapport à leurs compétences d'enseignant, mais aussi leurs compétences personnelles, sans le regard des autres, sans avoir à se cacher ou à se mentir parfois. Et lorsqu'ils atteignent tous les niveaux, ça pourrait donner lieu à un badge qui pourrait leur être attribué, qu'ils pourraient alors valoriser à l'interne en devenant des pairs experts ou aussi à l'externe pour une reconversion. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, on vous propose un petit temps d'échange si vous avez des questions à poser à Baptiste et à Brigitte. On a conçu ça avec Chantal d'avoir ce petit temps, le temps que les autres conférenciers s'installent. Ah oui. Alors. C'est un peu dommage en même temps qu'il n'y ait pas peut-être l'une ou l'autre question. On peut peut-être prendre au moins deux questions le temps que les conférenciers s'installent, donc allez-y.
Ça marche ? J'avais une question pour madame. C'était pour rebondir sur ce que vous avez évoqué sur l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, les formateurs, c'est une reconfiguration en fait, du métier. Ce n'est pas enseigner comme on enseigne avec des élèves, en prenant aussi en compte la spécificité de l'apprentissage de l'adulte. C'est pour ça que quand vous parliez de l'expertise ou de l'expérience, c'est très intéressant parce que du coup, quand on est formateur, on reconfigure. On prend en compte l'expérience, la spécificité de l'apprentissage chez l'adulte. Voilà, c'était juste.
Le mot expérience, il est à double sens. Hein. C'est vraiment effectivement parce que j'ai baroudé longtemps que j'ai acquis ces compétences. Et puis c'est aussi en permanence, j'essaye, je tâtonne. Je régule, etc. Et ça, on ne le valorise pas, alors que c'est le cœur du métier. Je suis bien d'accord avec vous.
Une question pour M. Caron. Vous avez parlé de grille de positionnement. Et est-ce qu'on peut, il y a un endroit où on peut consulter ces documents-là et en profiter éventuellement ?
Alors, pour le moment, c'est à l'interne, mais on ne peut plus. Mais je peux partager si vous me donnez votre adresse mail, il n'y a pas de souci. On est en expérimentation, on a fait une première grille, essayé avec un conseiller pédagogique. Et puis, alors, comme je suis référent numérique aussi, on essaye aussi de, de le mettre sur le volet numérique aussi pour montrer aux enseignants, causer. Et puis, ça permet d'expliciter vraiment ce qu'on peut attendre d'eux comme compétences à développer sur différents projets. Enfin, c'est voilà, un cheminement. Et sur des badges numériques derrière, c'est l'idée, mais c'est développement académique là-dessus.
Encore une question ?
Bonjour. Donc une information, moi je suis professeur des écoles et maître formateur et je voulais parler d'une petite expérience en peu de temps. Il y a 4 ans, je me suis trouvée assez mal avec mes élèves parce que je me suis rendu compte que les projets que je menais, que je préparais l'été comme beaucoup d'enseignants, eh bien que ça ne prenait plus. Donc je suis allée fouiner à l'extérieur de l'éducation nationale. Et je suis tombée sur une association qui s'intitulait Laboratoire de recherche en sciences de l'éducation, chargée de développer les compétences sociales, civiques et émotionnelles des élèves, et qui mettait en place une nouvelle démarche. Mon anglais est pitoyable, design thinking, n'est-ce pas ? Une démarche qui permettait aux élèves de développer leur créativité. Et donc c'est via SynLab. Et donc j'ai travaillé avec SynLab, bâtisseur de possibles. Il n'y a pas d'âge pour changer le monde et ça fonctionne de la maternelle jusqu'au lycée et même après. Et j'ai fait connaître d'ailleurs à Canopé. Canopé travaille maintenant avec SynLab. Ce n'est pas de la publicité, mais ils accompagnent les enseignants et j'ai eu besoin d'être accompagnée parce que cette démarche de projet valorisant l'élève et le rendant autonome, c'est-à-dire que l'identification des problèmes vient uniquement de l'élève, c'est plus l'enseignant